Et on aborde, je sais pas si on peut dire une parenthèse ou quoi, mais enfin, un chapitre qu'on intercale là, parce que je sais pas où le mettre ailleurs, qui est sur les judéo-chrétiens, ou le mouvement messianique, si vous voulez, la renaissance du mouvement messianique en Israël et dans le monde. Nous avons vu, quand nous avons étudié le 19e siècle, l'émergence en Bessarabie, dans la ville de Kitchinev, d'un mouvement judéo-chrétien, d'une église judéo-chrétienne, qui avait été créée là-bas sous l'influence de Joseph Rabinovitch, qui donc avait rencontré le Messie et avait créé ce qu'il appelait la première figue du figuier d'Israël qui reverdissait. Et Joseph Rabinovitch avait eu la conviction, révélation pourrait-on dire même, qu'il posait la première pierre d'un édifice sur lequel d'autres viendraient bâtir. Et de fait, c'est ce qui s'est produit, à la moitié du XXe siècle, par l'intermédiaire justement d'un homme qui lui aussi était originaire de Kitchinev, par le plus grand des hasards, qui se nommait Binyamin Zev Kaufman. Zev Kaufman était né donc à Kitchinev en 1910, et au moment de la révolution russe, la révolution bolchevique en 1917, il était donc venu s'installer avec sa famille à Paris. Il avait fui Kitchinev pour Paris. Donc là, son père était un homme extrêmement religieux. Donc, Zev Kaufman a été éduqué dans toute la tradition juive jusqu'au moment où il a entrepris des études de médecine. Et là, sous l'influence de la vie parisienne, de l'enseignement séculier qu'il avait reçu, il s'est détourné des choses de la foi, et notamment de la foi juive, tout en gardant évidemment tout un respect quand même pour les grandes fêtes, enfin, etc., quoi, comme beaucoup de juifs de cette période-là. Il s'est marié en 1938, alors qu'il était en train de finir sa cinquième année de médecine. Et là, donc, ses études terminées, il est entré dans l'administration coloniale française. Il a été envoyé donc en Afrique, en AOF, c'est-à-dire en Afrique occidentale française, dans une région qui devait devenir plus tard, après l'indépendance, la Haute-Volta, et plus particulièrement aujourd'hui le Burkina Faso. Un an plus tard, sa femme l'a rejoint. C'était à la veille donc la Deuxième Guerre mondiale. Et là, donc, la guerre a éclaté alors qu'il se trouvait en Afrique. Sa femme était en congé et de ce fait, vu que tous les moyens de transport maritime étaient mobilisés, sa femme n'a pas pu le rejoindre. Il était donc tout seul en Afrique, attendant que les circonstances permettent donc à sa femme de revenir. Lorsque est arrivé dans la station où il se trouvait, un couple de missionnaires américains, les Smiths, qui évangélisaient les Mossi la région qui devait être la Haute-Volta et aussi la Côte d'Ivoire. Madame Smith s'était tombée malade et elle avait dû être hospitalisée au Ghana. Et elle avait été donc envoyée en Haute-Volta pour un temps de convalescence dans la région où donc Monsieur Kaufmann se trouvait. Il était non seulement responsable du service de santé là-bas, service de la trypanosomie en particulier, donc ce qui concerne maladie du sommeil, etc. Mais il était aussi le seul blanc, le seul représentant de l'administration française dans une région de brousse. Il veut dire qu'il avait déjà une expérience de l'Afrique. Il avait fait son service militaire au 3e chasseur d'Afrique, donc dans la cavalerie. Et il était donc, il avait gardé un attachement pour l'Afrique qui faisait que il avait aussi une dimension humanitaire, comme on dirait aujourd'hui, bien qu'étant non religieux, si on peut dire, mais il avait gardé de son éducation juive tout de même le souci des plus faibles, etc. Et il y avait chez lui un certain côté idéaliste, même justement dans ce service qu'il effectuait. Il effectuait aussi pour un service pour les Africains, pour les Noirs. Et donc, lorsque les Smiths sont arrivés là où ils se trouvaient, il a considéré qu'il était de son devoir, puisque c'était des Blancs et que lui était le seul Blanc, de prendre contact avec eux. Il les a donc invités dans sa résidence pour un contact et pour une tasse de thé. Et c'est au cours de cet entretien que Mme Smith, soudain, à brûle-pourpoint, l'a interpellé. Elle dit, mais Monsieur Crossman, dites, avec un nom comme ça, vous devez être juif. Et ça l'a indisposé, ça l'a irrité, parce que, il n'aimait pas que, surtout, c'était venu un peu brutalement, comme ça. Alors, j'ai senti agressé dans son identité juive. Et il a répondu donc sur un ton agressif à cette dame. Il dit, oui, je suis juif. Et vous êtes chrétien. Et je sais que les chrétiens n'aiment pas les juifs. Monsieur Cosman, mais pas du tout. Mais vous vous trompez, bien au contraire. Notre Seigneur était juif, nous aimons les juifs. Et M. Grossman pouvait dire beaucoup plus tard, dans son témoignage, c'était la première fois de ma vie que j'entendais dire que des chrétiens aimaient les juifs. Pour moi, c'était absolument impossible. Si on était chrétien, ça voulait dire qu'on haïssait les juifs. Ça, c'était ce qu'on m'avait toujours appris, c'était ce que j'avais toujours vécu, c'était ce que j'avais toujours expérimenté. C'est la première fois de ma vie que je voyais des chrétiens qui aimaient les juifs. Et il dit, quand elle m'a dit cette parole, j'étais complètement désarçonné. Et j'ai bafouillé, je ne savais pas quoi répondre. Alors, il dit, nous sommes revus. Et donc, les Smiths ont commencé à lui parler de l'Évangile. Et à cause de cette parole, nous aimons les Juifs, toutes ces préventions, cet atavisme qu'il avait contre le christianisme s'est évanoui, parce qu'il a vu des gens qui avaient véritablement un amour pour les Juifs. Et alors, bien sûr, il a lu la Bible, il a lui-même cherché de tout son cœur, et finalement il est arrivé à la conclusion que Jésus était véritablement le Messie, le Sauveur. D'ailleurs, il dit, ces gens m'avaient tellement bouleversé qu'ils m'auraient dit que la terre était plate, ou que j'étais tellement bouleversé que j'étais prêt à croire n'importe quoi, à la limite. Et donc, il a demandé à Dieu, il dit, Seigneur, si vraiment Jésus est le Messie, tu me le révèles. Alors, au bout de quelques temps, effectivement, le Seigneur lui a donné la conviction que Jésus était véritablement le Messie. Il a donc demandé au Smith de le baptiser. Et le lendemain de son baptême d'eau, il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Et il a commencé immédiatement à prêcher l'Évangile dans l'hôpital dont il avait la charge, là-bas. Bien sûr, ça posait un énorme problème pour lui, deux gros problèmes. Le premier, c'était sa femme qui était absente. Et avec beaucoup de sagesse, il ne lui a rien dit par lettre. Il lui a simplement dit qu'il lui était arrivé quelque chose de merveilleux et que dès qu'il en aurait l'occasion, il lui expliquerait ce qui s'était passé. Et puis, deuxièmement, qu'en était-il maintenant de son identité juive, maintenant qu'il avait cru en Jésus ? Il était conscient que le peuple juif était un peuple qui avait souffert pendant des siècles, notamment de la main des chrétiens. Comment maintenant est-ce qu'il se situait par rapport à cela ? Alors il a demandé au Seigneur de l'éclairer. Et le Seigneur, alors il étudiait la Bible, et un jour il est tombé sur le texte de Romains 2, où Paul dit « Le vrai juif, ce n'est pas celui qui a la circoncision de la chair, mais celui qui a la circoncision du cœur. Celui-là est le véritable juif, il reçoit sa louange de Dieu, puisque juif signifie louange, n'est-ce pas ? Yehudi signifie louange, donc il y a le jeu de mots qui n'est pas traduisible en français, bien sûr. Et ça, c'était une véritable révélation pour lui. Là, ses dernières hésitations sont véritablement tombées. Il a compris que, bien loin de cesser d'être juif, sa foi en Jésus faisait de lui un véritable juif. Parce qu'à la circoncision de la chair, il ajoutait la circoncision du cœur. Et sur ces entrefaits, la France s'était effondrée en juin 1940. Le gouvernement français s'était réfugié à Vichy sous la direction du maréchal Pétain, qui menait une politique pro-allemande et donc antisémite, de telle sorte que, au bout de quelques mois, le nouveau gouvernement a envoyé à tous les fonctionnaires, donc aussi à l'administration coloniale, un questionnaire pour voir s'il y avait des fonctionnaires qui avaient du sang juif. Et dans quelle proportion il y avait des savants quotas, des calculs très complexes pour calculer la part de sang juif qu'on avait dans ses veines, etc. Et donc, un beau jour, son supérieur l'a fait venir et lui a dit, écoute, je suis bien embêté, il dit, voilà, j'ai reçu de Vichy un questionnaire, il faut remplir, si on a du sang juif, tout ça. Je sais que tu es juif, moi je t'aime bien, je ne voudrais pas que tu sois destitué. Alors écoute, voilà ce que j'ai pensé. On va mettre que Kaufmann, finalement c'est un nom à consonance plus ou moins allemande, tout ça. On va mettre que tu es alsacien. Comme ça, tu n'auras pas de problème, etc. Alors, Zef Kaufmann a dit, donnez-moi le formulaire. Alors il a pris le formulaire et il a écrit juif 100%. 100%, non pas tant à cause de ses origines juives, c'est vrai qu'il était juif 100% aussi sur ce plan-là, mais à cause justement de ce qu'il venait de découvrir quelques jours auparavant dans l'Épître aux Romains, le vrai juif, c'est celui qui a la circoncision du cœur. Alors évidemment, la réponse n'a pas tardé, il a été destitué, avec ordre donc de rentrer en France. Donc en 1941, il est arrivé en France, alors que sa femme venait de lui envoyer un télégramme lui demandant surtout de rester où il était, parce que justement, on commençait à se rendre compte qu'il y avait déjà des persécutions anti-juifs. Mais le télégramme ne l'a pas atteint, finalement, il est rentré en France. La France qui était coupée en deux. La partie sud qui était zone libre, dite libre du moins, sous l'autorité du gouvernement de Vichy, et la partie nord, qui était sous la domination allemande, séparée, les deux parties de la France étaient, vous le savez, séparées par la fameuse ligne de démarcation. Joseph Kaufmann est arrivé à Marseille. Il était évidemment hors de question, surtout en tant que juif, de traverser la ligne de démarcation. Donc, hors de question de retourner à Paris où se trouvait sa femme, et hors de question aussi pour sa femme de traverser la ligne de démarcation en sens inverse pour venir le rejoindre. Bon, la situation étant ce qu'elle était, il s'est finalement fixé à Toulouse. Toulouse, où il a commencé à fréquenter des réunions de l'église de Pentecôte, qui est aujourd'hui une des plus importantes églises de Pentecôte de France, mais qui à cette époque-là était une toute petite église qui débutait dans des conditions difficiles puisque on était en pleine guerre. Et là, il y avait quelques mémés, il prêchait de temps en temps, il aidait un peu le pasteur, mais il était surtout, il s'occupait d'allumer les feux, etc., de balayer la salle, il était tout à fait heureux, tout à fait content de le faire. Il travaillait dans une petite ferme, pour pouvoir subsister, évidemment, et puis aussi pour avoir de quoi cultiver, de quoi manger, car à cette époque-là, travailler n'était pas suffisant, on pouvait avoir de l'argent, mais il n'y avait rien à acheter dans les magasins. Donc la solution, c'était justement la campagne, avoir de quoi manger. Il correspondait avec sa femme, bien sûr, mais bon, les communications étaient extrêmement hasardeuses. Sa femme, qui elle ignorait toute sa foi nouvelle, bien sûr, jusqu'au moment où elle s'est décidée, je vais essayer de rejoindre mon mari à Toulouse. Et un beau matin, donc, sa mère arrive chez elle dans son appartement, la voit en train de boucler ses valises. Elle dit, qu'est-ce que tu fais ? Elle dit, je m'en vais à Toulouse rejoindre mon mari. Elle dit, mais tu es folle, les Allemands vont t'arrêter, t'as pas de laisser passer pour passer la ligne de démarcation. C'était déjà l'époque où les Juifs devaient porter l'étoile jaune, donc elle avait, ainsi que sa petite fille, l'étoile jaune. Sa mère lui dit, mais tu sais, non, elle dit, j'y vais, Mais comment tu vas faire? On débrouillerait, t'inquiète pas. Bon, et donc elle est à la gare, a pris congé de sa mère et de son frère, qu'elle ne devait plus jamais revoir, puisque sa mère et son frère devaient être déportés et gazés à Auschwitz, quelques mois plus tard. Et donc, les voilà partis pour le sud. Et lorsqu'on approche de la ligne de démarcation, les gens commençaient à sortir leur laissez-passer, etc. Et ses voisins de compartiment lui disent: Mais madame, vous voyez bien qu'elle avait son étoile. Il dit: Vous avez un laissez-passer? Non, 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 mais je vais passer quand même. Mais vous ne vous rendez pas compte, mais les Allemands vont vous arrêter, vous et votre petite fille. Écoutez, il y a encore une gare ici avant la ligne de démarcation. Vous avez le temps de descendre et de reprendre le prochain train. Non, 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 je ne bouge pas. Alors bien, le train s'arrête à la ligne de démarcation, la police allemande entre dans les wagons, laissez passer, etc. Chacun, bon, arrive à Madame Cosman. Madame, laissez passer. Madame Cosman, avec son plus joli sourire, lui dit: Monsieur, j'ai pas de laissez passer. Je vais rejoindre mon mari qui est à Toulouse. Et vous allez faire une exception pour moi, vous allez me laisser passer sans laisser passer. Le gendarme dit: Bon, restez là, madame. Allez voir. Tout le monde était dans le wagon, dit: Madame, mais ils vont vous arrêter. Descendez, descendez là-bas, je vais vous donner une adresse. Il vient de dire: Vous rejoignez l'adresse et puis ils vont vous rapatrier sur Paris. Non, 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 c'était un calme imperturbable. Alors le gendarme revient avec un supérieur. Venez par ici, madame. Alors il faut entrer dans une petite guérite là-bas, etc. Et puis elle recommence son histoire. Elle dit: Vous allez me laisser passer sans laisser passer parce que mon mari, je ne l'ai pas vu, il revient d'Afrique, enfin tout un grand truc. Prends un papier. Bon voyage, madame. Elle est passée la ligne de démarcation comme ça. C'était un dimanche matin, un train de nuit, donc qui avait roulé toute la nuit. Le matin, elle arrive donc sur le coup d'11 heures à le petit appartement dans une pension de famille que louait son mari à Toulouse. Elle arrive, elle dit: Monsieur Kaufmann est là. Non, non, il est sorti tous les dimanches de 9h30 à midi à peu près. Il est absent, il était au culte, elle ne savait pas. Mais si vous voulez l'attendre, il devrait plus tarder maintenant. Il est déjà 11 h et quelque chose, il va pas tarder. Bon, ben, vous pouvez asseoir dans le salon, je vais lui signaler que vous l'attendez quand il va arriver. Et ce matin-là, évidemment, au culte, comme tous les dimanches et comme toutes les réunions de prière, M. Cossin a demandé que l'on prie pour qu'il puisse retrouver sa femme et sa fille. Et donc, ils avaient prié ce matin-là. Il arrive dans sa pension de famille et la patronne lui dit: Monsieur Cossman, il y a une dame, une petite fille qui vous attendent. Une dame, une petite fille qui m'attend. Moi, je n'attends pas de dame et de petite fille. Venez de prier pour ça. Et puis il a reconnu dans la dame et la petite fille sa femme et sa fille. Bon, ce qui fait que ils ont pu être rassemblés. Et là donc, il a pu prendre le temps d'expliquer à sa femme ce qui s'était passé. La première réaction, évidemment, ça a été une réaction de rejet, de refus. Elle a écrit à sa mère, voilà, mon mari est devenu chrétien, etc. La mère indignée, il faut que tu le quittes, par des divorces, etc., etc. Et puis, bon, le mari continuait à prier, bien sûr, avec la petite église de Toulouse. Et bon, Mme Cosman voyait quand même que c'était profond chez son mari et se rendait compte qu'il y avait quelque chose. Alors, elle a fait la même démarche. Elle a dit: Seigneur, si vraiment Jésus est le Messie, révèle-le-moi. Et un jour, qu'elle marchait dans les rues de Toulouse, priant de cette manière-là, elle a entendu une voix audible. Qui lui a dit, qui, je sais plus ce qu'il lui a dit, enfin, je suis Jésus, quelque chose comme ça, et je serai avec toi, je te garderai, enfin, une promesse, quelque chose comme ça. Elle est rentrée, donc elle a dit à son mari: Bon, je crois, etc. Et là, donc, ils ont vécu des années de guerre extrêmement difficiles, échappant à des rafles nombreuses, notamment après 1942, quand les Allemands donc ont envahi la zone sud, la zone dite libre, et que par conséquent les rafles aussi ont commencé en zone libre. Là, c'était la main de Dieu, le miracle extraordinaire de Dieu, qui a fait qu'ils ont pu survivre dans des conditions extrêmement difficiles, justement, pendant toutes ces années de guerre. La guerre terminée, eh bien, ils se sont rendus compte qu'ils étaient les seuls survivants de leur famille. Ils sont rentrés à Paris. Il y avait quelqu'un dans leur appartement qui avait pris leurs meubles, qui avait tout pris, etc. Bon. Et qui a refusé d'évacuer des lieux. Ils se sont retrouvés dans un appartement minable, dans une sous-pente, etc. Enfin, c'était des conditions extrêmement difficiles, avec comme tout mobilier des caisses, qu'ils appelaient donc, plus tard, avec humour, M. Grossman parlait du style Louis Caisse, dans lequel il vivait pendant ces années qu'il était à Paris. Et puis là, et bien donc petit à petit, on était donc juste après la libération, après la guerre, le gouvernement français remettait un peu d'ordre dans tout ce qui s'était passé. Il a été convoqué au ministère des colonies. On lui a proposé de repartir donc en AOF pour reprendre ses anciennes fonctions, dont il avait été destitué, avec une promotion, bien entendu, pour le dédommager un peu de tout ce qu'il avait souffert. Et donc là, il a été renvoyé en Côte d'Ivoire, non plus en Haute-Volta cette fois-ci, mais en Côte d'Ivoire, à proximité d'une mission baptiste à laquelle il s'est rattaché. Peu de temps après, donc, il est tombé, lui-même a été frappé par la malaria, il était aux portes de la mort, sa femme était restée en France, parce que, comme toutes les femmes, justement, des fonctionnaires de l'administration coloniale, parce que tous les bateaux n'étaient pas encore entièrement démobilisés, donc il n'y avait pas de place pour les familles. On envoyait simplement d'abord les responsables, et puis seulement après, donc, les familles devaient suivre quand il y aurait de la place. Et donc, à nouveau, les Korsman étaient séparés. D'autant que lui était malade, donc comme je disais, aux portes de la mort, il s'en est sorti miraculeusement. Et à ce moment-là, sa femme donc aussi priait pour avoir la possibilité de rejoindre son mari. Et ce matin-là, au culte du dimanche matin, le pasteur avait prêché sur la parabole de la veuve, la veuve qui venait rompre la tête du juge unique, vous vous souvenez ? Et donc qui avait obtenu finalement ce qu'elle voulait. En sortant de là, Mme Korsman, ça lui a donné des idées. Elle s'est dit, tiens, ça c'est une chose que je peux faire. Elle a demandé un rendez-vous au ministre des colonies, rien que ça. Alors, bien entendu, elle lui a dit, mais qui êtes-vous, madame, etc. Bon, enfin bref, elle est venue, revenue, elle a fait exactement ce que la veuve avait fait. Finalement, après s'être débattue et avoir fait des pieds et des mains, elle a obtenu une entrevue avec le ministre des colonies. Bon, alors elle était là à l'heure aujourd'hui, au rendez-vous, n'est-ce pas ? Le ministre l'a fait entrer dans son bureau, Mme Korsman, voilà, elle a demandé un rendez-vous, qu'est-ce que je peux pour vous ? Alors elle dit, écoutez, voilà, monsieur, je suis donc, mon mari est donc directeur d'un dispensaire là-bas, en Côte d'Ivoire, je suis donc ici depuis plusieurs mois séparé de lui, j'aimerais bien le retrouver, je voudrais que vous me donniez la possibilité d'avoir un passage sur un prochain bateau pour rejoindre mon mari en Côte d'Ivoire. Et je me suis dit, et Madame Korsman, vous avez le culot de venir me déranger pour ça? Prenez la porte tout de suite, il y a des milliers de femmes comme vous qui attendent et qui sont là aussi, si je voulais, mais c'est impossible madame, prenez la porte. Korsman, avec son plus beau sourire, sans se démonter. Oui, monsieur le ministre, j'ai ce culot de venir vous demander ça, parce que je suis la dernière survivante de toute ma famille, que mon mari aussi, il a été destitué, nous avons été traqués comme des bêtes sauvages pendant 4 ans par la police française et la police allemande. Nous avons survécu par miracle, toute ma famille est morte dans les camps de concentration, on nous a spoliés, nous n'avons plus retrouvé notre appartement, elle a expliqué. Alors, le ministre écoutait, puis il dit, bon, Madame Korsman, vous partez par le prochain bateau. Alors, ce qui s'est fait, donc, elle a rejoint son mari. Et donc, c'est là qu'est née leur deuxième fille, Florence. Et c'est alors que le Seigneur a commencé à parler au cœur de Zev Korsman, qui se posait cette question, finalement. Pourquoi le Seigneur nous a-t-il laissé vivre? C'est finalement la question que beaucoup des survivants de la Shoah se posaient. Pourquoi ? Il y avait finalement, c'était 30 personnes de leur famille, à peu près une trentaine de personnes, qui avaient péri dans les camps. Soit de la famille directe, comme pour la famille de sa femme, soit de la famille indirecte, la famille lointaine. Il dit, pourquoi nous ? Pourquoi nous sommes les seuls survivants de notre famille ? Pourquoi le Seigneur nous a-t-il laissé vivre ? Et finalement, est arrivée la conviction dans son cœur que c'est parce que le Seigneur avait un plan pour sa vie, un plan spécial pour sa vie. Et finalement, au bout d'un temps, il a senti l'appel de Dieu pour le service de Dieu, a tout quitté pour le suivre. Finalement, évidemment, ce n'était pas facile, après toutes les années de guerre et les années difficiles qu'il avait vécues. Et puis, tout quitter à nouveau pour... À cette époque-là, il n'était pas question d'Israël, encore dans son esprit. L'État d'Israël n'était pas né. On savait bien qu'il y avait là-bas des troubles dans ce qu'on appelait alors la Palestine, mais enfin, il n'était pas question d'État d'Israël. Donc, c'était le service de Dieu, tout simplement. Et alors, finalement, il résistait. Il résistait à l'appel de Dieu. Et pourtant, il sentait la pression du Saint-Esprit qui lui demandait de tout quitter. Et un beau matin... ou un bel après-midi plus exactement, il devait aller avec une grosse ambulance Dodge chercher un malade dans la brousse pour le ramener au dispensaire. Et puis, les routes là-bas n'étaient pas extraordinaires. Et soudain, dans un virage, le chauffeur a pris le virage un peu vite. La voiture a fait plusieurs tonneaux en miettes, la voiture inutilisable, et les passagers sont en sortis par miracle. Alors, il était quand même passablement commotionné, traumatisé, il rentre chez lui. Et puis, quand même, se demandait, Seigneur, c'est toi qui m'as gardé. Et à nouveau, il se dit, mais Seigneur, tu me gardes pour quelque chose. Et pourquoi ? Alors, pourquoi cet accident ? Et le lendemain matin, donc, il avait un calendrier à effeuiller, comme beaucoup ont, n'est-ce pas ? Et il prend ce calendrier, fait sa lecture biblique, son culte personnel le matin. Et le texte qui était proposé à la lecture ce jour-là, ainsi que la méditation qui suivait, la petite méditation, était tiré d'un texte du Livre des Rois. Vous savez, des Chroniques, je crois, quand le roi Roboam, après le schisme, veut aller faire la guerre à Jéroboam. Et un prophète vient vers le roi et lui dit de n'en rien faire, disant « parce que c'est par moi que cette chose est arrivée ». Donc le schisme, la séparation. Donc ne faites pas la guerre à vos frères, parce que c'est par moi que cette chose est arrivée. Et la méditation, c'était sur ce texte, c'est par moi que cette chose est arrivée. Et celui qui avait écrit cette méditation disait, il y a parfois des événements étranges qui arrivent dans notre vie, nous ne comprenons pas pourquoi, mais c'est le Seigneur qui permet pour nous dire quelque chose, etc. C'est par moi que cette chose était arrivée. Il se posait la question la veille, pourquoi Seigneur cet accident ? C'est par moi que cette chose est arrivée. Parce que tu résistes. Il a compris. Bon, il dit, ok Seigneur, j'ai bien compris. Et le jour même, il a pris sa plus belle plume, il a écrit à l'administration disant qu'il donnait sa démission. Il est donc rentré en France pour se former pour le service de Dieu. C'était l'année 1947, oui, 47 je crois. 46, 47, 46 je crois. Et là donc, c'était l'époque où le pasteur Fauvel avait ouvert dans l'église de la Cour des Noues à Paris, l'église pentecôtiste, une école biblique. Une école biblique qui devait d'ailleurs mal tourner. On a vu ça quand on a vu l'histoire du mouvement Pentecôte français, quand le pasteur Fauvel tombera dans l'adultère, etc. Mais bon, à cette époque-là, ça marchait. Et donc, il s'est inscrit dans cette école biblique. C'est là qu'il a rencontré le pasteur Lecossec, qui lui aussi étudiait dans cette même école. C'est là qu'il a rencontré le couple Guyat, Florent et Madeleine Guyat, qui se formaient pour être missionnaires en Afrique. Et donc, là a commencé une période très riche pour lui, où il s'est formé à fond pour le service de Dieu. Bon, 1947, l'affaire de l'Exodus, et novembre, la décision de l'ONU de la création d'un État d'Israël, donc Alex Success. Et là, donc, soudain, Zef Kosman a eu son attention attirée par ce pays d'Israël qui allait naître. Et il s'est posé la question, mais est-ce que le Seigneur ne voudrait pas que j'aille prêcher l'Évangile là-bas ? Après tout, je suis juif, et est-ce que ma place n'est pas là-bas ? Il en a parlé avec les professeurs, qui lui ont dit, mais enfin, non, 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 sûrement pas, là, là, de toute façon, cette histoire d'État juif, là-bas, c'est invivable. S'il crée un État juif, il va être écrasé par les Arabes, ta place n'est pas là-bas, il faut mieux que tu restes ici, etc., etc. Enfin, on l'a fait tout pour... Il n'y croyait pas. Les pasteurs français ne croyaient pas à la création d'un État juif. Alors, il en a parlé à ses camarades, et notamment à Clément Cossec. Et Clément Cossec a été le seul qui lui a dit « Ta place est auprès de ton peuple ». Et là-dessus, donc, il hésitait. Entre-temps, Clément Cossec était devenu pasteur à Lille, et il avait organisé, donc, en 1947, une convention nationale, là-bas, dans cette église de Lille. Et, bien entendu, Zef Kaufmann s'y trouvait, avec des gens venus de toute la France et de la Navarre, donc une foule de gens qui étaient absolument inconnus pour lui. Et il était toujours dans cette interrogation, dois-je ou non me rendre en Israël ? Enfin, non, c'était pas encore Israël à cette époque-là. En fin de compte, pardon, c'était en 48. Si, c'était en 48, et l'État d'Israël allait naître. C'était tout à fait au début de 48. Et donc, là, soudain, dans une des réunions, une personne totalement inconnu de lui, s'est levé devant là, dans les centaines, voire les milliers de personnes qu'il y avait là, dans cette grande réunion de Lille, dans le grand théâtre de Lille, et soudain a donné une prophétie. Et il a reconnu que cette prophétie s'appliquait à lui. Elle décrivait exactement son état. « Je t'ai fait venir d'un pays lointain, donc l'Afrique. Après t'avoir gardé pendant ces années de guerre, tu aurais dû disparaître, etc. Mais je t'ai gardé parce que j'ai un plan pour ta vie. » Exactement ce qu'il avait pensé. Hein. Et je t'ai mis à part pour une tâche spéciale pour que tu ailles vers ton peuple. Maintenant, va, je serai avec toi, je te garderai, etc. etc. Bon. Il a reconnu que c'était la voix de Dieu, que c'était le plan de Dieu pour lui. Il a donc passé outre à l'opposition de ses professeurs. Il a prié, il dit, Seigneur, bon, si c'est de toi, je n'ai pas un sou. À cette époque-là, donc, c'était juste après la proclamation de l'État, donc c'était le moment où... les immigrants venaient de tous les camps de concentration, tous les bateaux étaient gardés pour les immigrants qui partaient là-bas, donc rescapés des camps de concentration, quoi. Hein. Et pour ceux qui venaient des pays d'abondance, il fallait payer. Alors, 4 billets, ça faisait une telle somme. Et dit, Seigneur, tu sais que j'ai pas d'argent. Tu sais que j'ai pas de meubles, il n'est pas question de vendre des meubles. Le style Louis Caisse, c'est pas très demandé par les antiquaires d'une manière générale. Donc, si tu me veux là-bas, tu pourvois. Le lendemain, il reçoit une lettre d'un des ministères quelconque. Il dit, monsieur, voilà, la commission des dommages de guerre. S'est penché sur votre cas depuis, et il apparaît que le préjudice que vous avez subi dans le conflit qui vient de s'achever se monte à temps. Veuillez trouver ici un chèque de temps qui correspond à la première partie des dommages de guerre qui vous seront remboursés intégralement dans un délai de tant d'années. Et le premier chèque couvrait exactement au centime près, c'est ça, l'achat de 4 billets de bateau Marseille-Haïfa et de billets de train Paris-Marseille. Alors il a dit, Seigneur, bon, ok, c'est de toi. Bon, ils se sont rendus à Marseille après avoir donc fait les adieux à l'église, et c'est là que a eu lieu ce moment tout particulier que j'ai souvent évoqué, n'est-ce pas, lorsque, faisant ces adieux à la cour des nous, je ne sais plus qui me disait qu'il était. Ah, c'est notre frère là qui est venu cet été, comment il s'appelait là, le frère du ancien pasteur au Havre, le petit là, comment ça? Oui, comment? Féro. Pas Féro, non. Dugard, frère Dugard qui est venu au camp de jeunes cet été là, qui me disait que quand je lui rapportais cette histoire, il avait assisté à cette fameuse réunion d'adieu des Kaufmann. Où donc M. Kaufmann avait expliqué qu'il partait évangéliser là-bas, etc. Et qu'il demandait compris, bien sûr, quoi. Et c'est donc dans cette église que se trouvait une petite fille de Yosef Rabinovitch qui avait fui, dont les parents avaient fui donc Kitchinev à peu près en même temps que M. Kaufmann, qui était arrivé à 6 ans, 7 ans, quand il était arrivé en France, et qui avait pris avec elle, tout le dossier qu'avait préparé son grand-père en disant « ce sera à remettre ». Il avait remis ça à ses parents, puis les parents avaient remis ça donc à leur fille. « Ce sera à remettre à celui que le Seigneur appellera pour poursuivre l'œuvre que j'ai commencée en Bessarabie. » Il y avait tout un dossier dans lequel il y avait donc ce que devait être l'Assemblée, la vision messianique, toute la vision messianique de M. Kaufmann était exposée là-dedans, ce qu'elle ne devait pas être, pas une mission, pas affilié à un mouvement étranger, etc. Les chants en russe, en yiddish, en hébreu, qui devaient être chantés, parce que tout était à faire à ce niveau-là, et Rabinovitch avait tout préparé, tout un ensemble de choses extraordinaires qui étaient donc là en hébreu, en yiddish et en russe. Langue que M. Kaufmann possédait, ces trois langues, enfin, pas l'hébreu, pas encore, mais enfin, qu'il allait posséder peu de temps après. Et elle avait ça chez elle, avec mission de le remettre à celui qui. Et ce fameux dimanche matin, quand elle a entendu, ou après-midi, je crois que c'était après-midi, quand elle a entendu donc ce jeune pasteur juif, plein de foi, plein d'enthousiasme, plein d'allant, elle est venue le voir après la réunion, dit « M. Kaufmann, vous voudriez prendre une petite tasse de café chez moi ?» Alors il est allé chez elle, cette vieille dame, et elle est allée chercher dans un secrétaire un dossier. Elle dit « Voilà, tout ça, c'est pour vous. » Elle lui a expliqué. Évidemment, c'était un formidable encouragement pour lui de voir qu'il y avait vraiment un plan de Dieu qui remontait donc à un siècle, quoi. Oui, pas tout à fait un siècle, mais si, un siècle quand même. Et pas tout à fait, non. Un demi-siècle. Et par conséquent, le lendemain, il prenait le train pour Marseille. Marseille, c'était une véritable cour des miracles sur ce vieux bateau qui s'appelait le Shalom, s'entassaient alors des véritables fantômes vivants, des squelettes ambulants, des gens qui avaient tout perdu, qui sortaient des camps de concentration, une misère absolument indescriptible. Bon, les Kaufmann avaient réussi à avoir une cabine dans une classe, sinon première classe, enfin une classe un peu supérieure, quoi, et ne voyageaient pas avec tous ces gens-là. Mais bon, c'était quelque chose d'indescriptible, cette misère de ces gens-là, et bon. L'État d'Israël était né, c'était juillet 48, par là, c'était l'été, fin de l'été, je ne me souviens plus exactement. Et donc l'État juif était en guerre. Là, il était en guerre pour sa survie. Lorsqu'ils sont arrivés à Haïfa, c'était encore pire. Sur les quais du port s'entassaient alors des immigrants qui étaient là, qui croupissaient au soleil, le soleil terrible de l'été, n'est-ce pas ? Autour de Haïfa, on avait installé des camps sous toile, n'est-ce pas, où s'entassaient ces gens-là. C'était des véritables camps de concentration sans barbelés, finalement. Mais c'était tout ce qu'Israël en guerre pouvait faire. Et en arrivant, en débarquant sur la terre d'Israël, les sirènes se sont mises à hurler. Un raid de bombardement de l'aviation égyptienne était annoncé. Alors, des hurlements de terreur parmi ces gens qui étaient entassés sur les quais, qui ne pouvaient absolument rien faire. Joseph Kaufmann disait, c'était un petit bombardement de rien du tout. Ils ont lancé trois bombes, puis ils ont fait demi-tour. Les bombardements, nous en France, pendant la guerre, on en avait vu d'autres. C'était pas ça qui nous avait tellement impressionnés. On les a emmenés dans un de ces camps de toile, dans une tente, là. J'ai dit, mais non, on peut pas habiter là. Les petites filles se sont mises à pleurer, tout ça. Bon, ils avaient quitté un appartement parisien en style Louis Caisse, mais quand même, quoi, c'était quand même un peu plus confortable que ce qu'on leur proposait là. Alors, on dit, mais écoutez, il n'y a qu'une seule solution, c'est l'hôtel. Bon, ils avaient un peu d'argent qu'ils avaient réussi à prendre de côté, mais enfin, pour loger à l'hôtel. Bref, ils se sont présentés dans un hôtel de Haïfa. Et soudain, la patronne de l'hôtel, qui parlait russe, a dit, mais vous êtes une telle, vous ? C'était le nom de sa mère. Elle dit, non, je suis sa fille. Ah bon ? Mais j'ai bien connu votre mère. Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Ben, partie en fumée. Ah oui. Vous êtes sa fille ? Oui. Bon, écoutez, je vais faire quelque chose pour vous. Je vais vous loger gratuitement. Et c'était à nouveau la main de Dieu, n'est-ce pas, qui s'est manifestée sur leur route, quoi. Ils ont pu ainsi donc s'établir à Haïfa. Et là, donc, il a dit qu'il était médecin spécialiste de la malaria. À cette époque-là, donc, la malaria sévissait encore en Israël. C'était la fin. On finissait de drainer les marais d'Israël et du Hula, mais quand même, il y avait encore des problèmes de malaria. Il a donc été embauché dans un hôpital de Haïfa, chez le service du professeur Meir, spécialiste donc de la malaria. Et là, donc, il a trouvé à se loger sur Haïfa. Son objectif était Jérusalem, mais il était hors de question d'aller à Jérusalem parce que Jérusalem était assiégée. C'était l'époque de la bataille pour Jérusalem, la bataille des convois, l'opération Nachshon et toutes ces choses-là, n'est-ce pas, pour laquelle Ariel Sharon a été grièvement blessé, il a failli mourir. Il est resté à Haïfa. Tout de suite, il a commencé à prêcher l'Évangile. Et il a commencé aussi un travail parmi les enfants, les orphelins. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'orphelins qui arrivaient là-bas. Bon, outre son travail au service de la malaria, il travaillait aussi pour aider les immigrants qui arrivaient, au point de vue hygiène et tout ce qu'on voudra. Et puis aussi, il prêchait l'Évangile. Là, il a donc été contacté par une mission américaine qui lui a proposé de l'aider à créer une maison d'enfants pour accueillir ses orphelins sur Haïfa, ce qui a donc été fait. Il a donc créé sur le Mont Carmel à Haïfa une maison d'accueil pour les enfants, d'abord en petit nombre bien sûr, parce qu'ils n'avaient pas de personnel. C'était sa femme qui faisait tout, qui faisait la cuisine, qui faisait la lessive, qui faisait la vaisselle, qui faisait les lits, etc., etc. Bon, il faisait tout. Immédiatement, il y a eu des problèmes parce qu'il prêchait l'Évangile. Et des rabbins sont venus pour essayer de d'attenter à ses jours, tout simplement. Et notamment, il a été attaqué un jour. Il dit, bon, c'est un petit rabbin, il dit, nerveux comme tout. Ils étaient deux. À cette époque-là, lui, c'était un grand gaillard. Il était en pleine force de l'âge. Ancien officier au 3e chasseur d'Afrique. J'aurais pu l'étrangler comme rien si j'avais voulu. Mais il dit, bon, à cause de l'Évangile, je ne me suis pas défendu. Je me suis laissé tabasser, etc. Ma femme a caché les deux petites filles sous les lits, etc. Puis quand ils m'ont cru mort, les deux gars sont partis, quoi. Quelques temps après, c'était donc d'autres qui sont revenus et qui ont essayé de jeter des bouteilles d'essence enflammées dans le jardin pour mettre le feu à la maison. Il a réussi à éteindre l'incendie avant qu'il y ait des dégâts trop importants qui soient faits. Et puis une autre fois, ils sont venus pour attaquer sa femme, mais elle était sortie. Bon, ça s'est quand même bien terminé par la grâce de Dieu. Mais déjà, ça donnait le ton et ça montrait que, bon, c'est évident que c'était très difficile parler de Jésus à cette époque-là à des gens qui avaient été persécutés par des soi-disant chrétiens, parce que pour eux, les nazis d'Hitler, c'était des chrétiens. Pour les juifs, tout non-juif est un chrétien. Donc, automatiquement, c'était ce qu'on disait. Mais enfin, comment vous, des juifs, vous venez au nom de ceux qui nous ont persécutés, nous parler de Jésus au nom duquel on a été persécutés? C'était en gros l'idée, quoi. Alors, c'était extrêmement difficile à cette période-là. Bon, le but était néanmoins Jérusalem. Et donc, Jeff Kosman priait pour avoir la possibilité de se rendre à Jérusalem. Et c'est donc au moment, l'année suivante, 49, quand le siège de Jérusalem a été levé après la première trêve, vous savez, quand on a construit la fameuse route dite du courage, la route de Birmanie, en l'honneur d'Orduin Gett, qui était mort là-bas sur le front de Birmanie, profitant de la première trêve, donc sous l'impulsion d'Igal Gadin qui avait découvert une ancienne voie romaine, on a pu contourner le saillant de la Troun et permettre que le siège de Jérusalem soit levé. Et donc les premiers convois sont passés donc après la trêve dans des fameuses voitures sandwich qu'on voit encore, ceux qui connaissent, sur les bas-côtés de la route qui monte justement à Charagag, là-bas, à Babeload, quand elles étaient attaquées dans le défilé, quoi. Et donc, dans la première voiture, le premier convoi, je veux dire, qui a rejoint Jérusalem, il y avait toute la famille Kosman. Ils sont arrivés à Jérusalem assiégés, où on aurait dit une ville fantôme. Le siège était partiellement levé, mais enfin, ça tirait encore dans tous les coins, bien sûr. Il dit, on a trouvé une voiture à bras pour charger nos affaires, et avec la voiture à bras, en poussant la voiture à bras, on est allé chercher un logement. La plupart des maisons de Jérusalem étaient endommagées par la guerre, il n'y avait pas d'appartement libre, tout le monde était entassé, impossible de trouver un logement. Et finalement, on nous a dit, écoutez, il y a bien un logement de libre, mais personne n'en veut parce qu'il est sur la ligne de feu. C'est rue des Prophètes, au 43. Et je me suis dit, je suis preneur. Mais vous ne l'avez même pas vu? Non, c'est rien, je prends. Vous n'avez pas fait? Non, je n'ai pas peur. Bien, alors donc, ils ont emménagé ce jour-là, avec la voiture à bras, dans ce fameux 43 rue des Prophètes, où ils devaient rester jusque dans les années 70, début des années 70, qui était donc la dernière maison avant les lignes israéliennes, quoi, de l'autre côté de la rue. Ceux qui connaissent là-bas, c'est donc il y a la rue des Prophètes qui arrive perpendiculairement, il y a la rue Mea Shearim et la rue des Shiftei Israël qui continue donc perpendiculairement à cette rue-là. La rue des Prophètes continue de l'autre côté. Bon, la rue Shiftei Israël, c'était la frontière. L'autre partie de la rue des Prophètes était occupée par la légion jordanienne. Alors, si vous voulez, il y avait la largeur de la rue qui séparait les combattants des deux côtés, quoi. Alors, pour rentrer chez nous, disait Zev Kosman, fallait raser les murs, profiter d'une accalmie de la mitraille pour pouvoir sortir et rentrer chez nous, quoi, avec les deux petites filles. Bon, Dieu nous avait gardés jusque maintenant, etc. Et là, ça a été pour lui, cet acte de courage a fait l'admiration de l'armée, bien sûr, de toute la population, et a contribué, a été un point très important pour leur témoignage. Parce qu'on a dit, voilà, des gens courageux, des gens qui, etc. Et donc, ils se sont installés là et ils ont quitté Haïfa, bien que lui faisait des allers-retours pour continuer à s'occuper de la maison de Haïfa. Je crois que sa femme était restée à Haïfa quand même, avec les deux petites filles. Il était seul dans la maison des prophètes pendant toute la fin de la guerre. Et là donc, il a été mobilisé sur le front de Jérusalem. Il avait reçu à la fin de la guerre le brevet de défenseur de Jérusalem. Il dit, j'avais pas fait des choses extraordinaires, des exploits extraordinaires, parce que pour toute arme, j'avais un béret et un sifflet. Et on était tellement... On vient d'intervenir, quoi. Alors, en même temps, donc, la guerre terminée, il a été embauché au ministère de la Santé, comme fonctionnaire au ministère de la Santé. Notamment, une de ses prérogatives, c'était de veiller à tout ce qui était hygiène dans la ville, etc., quoi. Et donc, il a commencé à prêcher l'Évangile immédiatement. Et notamment, il a trouvé là un certain nombre de gens qui avaient cru en l'Évangile et qui avaient été abandonnés par les missionnaires quand la guerre avait éclaté. Ils avaient préféré courageusement aller se mettre à l'abri. Il a donc trouvé une petite poignée de croyants en Jésus, qu'il a rassemblés autour de lui. Et il a commencé à prêcher l'Évangile rue des Prophètes, entre deux tirs de mitrailleuse. Et c'est là donc qu'il a rétabli, donc, après l'interruption depuis 70 après Jésus-Christ, quand le peuple d'Israël avait quitté Jérusalem, avait été dispersé, il a rétabli la première église messianique, assemblée messianique, qui était la continuité directe, comme il aimait à le dire, de l'église de Jérusalem, de l'église des apôtres, qui était une assemblée juive qui n'était plus affiliée à un mouvement étranger, ni baptiste, ni pentecôtiste, ni méthodiste, ni quoi que ce soit, mais qui était la continuation de la première assemblée. Et là, donc, pour Noël 1948, oui, en pleine guerre, il a donc solennellement inauguré cette assemblée en faisant une convention, la première convention messianique dans Jérusalem en guerre depuis l'époque des apôtres. Bon, il n'y avait pas une foule aussi grande que le jour de la Pentecôte, bien évidemment. Mais enfin, c'était de ce petit commencement dont parlait le prophète quand il disait qu'il ne fallait pas mépriser justement le jour des petits commencements. La guerre terminée, les missionnaires ont commencé à revenir, bien entendu, courageux mais pas téméraires, et Zev Kosman les a rassemblés. Elle leur a dit, écoutez, voilà, maintenant l'État d'Israël est ressuscité, l'exil est terminé. Il leur a dit ça élégamment, bien plus élégamment que ce que je vais vous le dire. Mais enfin, en gros, c'était ceci, votre rôle est terminé. Il est temps maintenant que nous fassions une seule église de toutes les missions, fassions une seule église qui soit une église messianique. C'est la vision d'Rabinovitch. L'église de la Nouvelle Alliance, c'était, vous vous souvenez, le nom que Rabinovitch avait donné à son église, et qui soit une église du peuple, une église juive, qui aura des bons contacts avec les croyants des nations, c'est pas le problème, mais qui ne dépendra plus d'eux, ni financièrement, ni administrativement, ni rien, qui sera une église nationale, qui sera une église autonome. Vous avez des églises nationales dans vos pays, bientôt vont naître dans les pays d'Afrique et les pays du tiers-monde des églises nationales, parce que c'est pareil, le temps des missions est en train de s'achever, et bien c'est la même chose ici. Il est évident que ces messieurs ne l'entendaient pas tout à fait de cette oreille-là. Et ont commencé donc les problèmes de Zev Kaufman avec les missions. Et s'il est vrai qu'il a été persécuté par ses frères juifs pour des raisons évidentes que j'ai évoquées tout à l'heure, ses principales difficultés sont vraisemblablement venues essentiellement des missionnaires et des étrangers qui ne comprenaient pas du tout, qui n'ont jamais compris sa vision, qui n'ont jamais compris sa mission. Après la guerre, plusieurs personnes se sont tournées vers le Seigneur. Il a eu un certain succès. Et le petit appartement de la rue des Prophètes est devenu bien sûr trop petit pour tenir les réunions. Zev Kaufman avait été démarché par une mission américaine qui lui avait proposé de le prendre comme missionnaire, lui proposant salaire, voiture, logement, tout payé grassement, tournée missionnaire tous les 2 ou 3 ans, etc. Il a refusé parce que c'était pas du tout sa vision. Et bon, cette même mission, évidemment, a commencé à lui tirer dans les jambes. Mais il a obtenu du YMCA, ceux qui connaissent le grand édifice Limca qui se trouve en face du roi David là, d'avoir un lieu de culte. Donc ils tenaient leur réunion du samedi, les réunions du Shabbat, puisqu'il a commencé immédiatement à prêcher le Shabbat et changer le dimanche, alors que les missionnaires continuaient à prêcher le Shabbat. Et il a donc prêché le samedi, il prêchait au YMCA, et les réunions semaines qui étaient moins fréquentées avaient lieu de rue des Prophètes. Bon, à cette époque-là, Zev Kaufman ne connaissait pas la langue. Il a commencé à prêcher en yiddish. Et il y avait aussi énormément de Russes. Bon, lui-même était ses parents étaient russes, mais depuis qu'il est arrivé en France, il avait cessé de parler le russe. Depuis l'âge de 6 ans, il n'avait plus jamais parlé de russe. Il pensait qu'il avait complètement oublié cette langue. Et par un miracle de Dieu, quand il est revenu donc en Israël, il s'est mis à parler un russe parfait. Alors il prêchait à la fois en yiddish et en russe, tout en continuant à suivre des cours à l'université avec un des plus grands professeurs d'hébreu de l'époque, professeur Rosen. Donc il a pris l'hébreu et son but était, dès qu'il serait capable de le faire, de prêcher en hébreu. Les missionnaires, même ceux qui étaient là depuis 20 ans, 30 ans, continuaient à prêcher en anglais, n'avaient jamais fait l'effort d'apprendre la langue. Lui a voulu immédiatement, n'est-ce pas, prêcher en hébreu. Donc c'était une des grandes spécificités aussi. On lui reprochait ça, on lui reprochait aussi de prêcher en hébreu. On serait cru revenu, n'est-ce pas, à l'époque de l'Église ancienne, quand on reprochait aux judéo-chrétiens de lire la Bible en hébreu voilà, on était arrivé au même stade, quoi. Hein. Bon. Le chef Kaufman aussi refusait d'employer le mot chrétien. Il employait le mot messianique, Mishéhi en hébreu, en disant que finalement ça veut dire la même chose. Parce que chrétien, ça veut dire quelqu'un qui croit dans le Christ. Et Mishéhi, ça veut dire quelqu'un qui croit dans le Messie, Mashiach. Alors pourquoi employer un mot étranger alors que nous on a un mot qui parle aux juifs beaucoup plus? Mais ça, les missionnaires avaient beaucoup de mal à le comprendre à cette époque-là. C'était la tradition. Il fallait parler de chrétiens. On était chrétiens, etc. On l'a accusé, justement, de ne plus être chrétien. Il refusait de se dire juif converti. Alors, c'est pareil. On lui a reproché de ne pas croire en la conversion, de ne pas prêcher la conversion. Alors, dans le sens de changer de religion, c'est vrai qu'il prêchait pas la conversion, mais je l'ai fréquenté d'assez près pour savoir qu'il prêchait la nouvelle naissance, l'abandon des péchés, la foi en Jésus, le salut par la croix, etc. Mais il appelait pas ça la conversion. Pourquoi? Parce que justement, un juif, dit-il, ne se convertit pas. Se convertir pour les gens, ça veut dire changer de religion. Un juif converti, c'est un juif qui cesse d'être juif pour devenir chrétien. Et moi, quand j'ai cru en Jésus, je ne suis pas devenu chrétien, je suis resté juif, je suis devenu juif à 100%, c'est ce que nous avons expliqué tout à l'heure. Et par conséquent, je suis devenu juif messianique, juif michéri. Il bannissait donc le mot conversion de son vocabulaire. C'était ce qu'il avait appris d'Rabinovitch, c'était déjà Rabinovitch qui avait dit ça. Qui avait forgé le mot michéri, le mot messianique, ça venait de Rabinovitch. Alors, il a été combattu horriblement pour avoir employé ce mot messianique. Et puis maintenant, aujourd'hui, tout le monde se dit messianique, même ceux qui ne sont plus messianiques du tout. Parce que pour lui, être messianique, c'était entrer dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, pour Israël, il était clair. Et c'était un chant magnifique qu'il avait donc recomposé, si vous voulez, sur la mélodie de « Debout Sainte-Cohorte ». C'était avant, dans la fameuse réunion qui avait eu lieu à Cordenou, le dimanche, la veille de son départ, ça avait été chanté à tue-tête, n'est-ce pas? Et je l'ai ce chant, je l'ai dans les archives encore. Ça commence comme ça, « Debout, race bannie, ton temps est arrivé, crois-tu que Dieu t'oublie ?» etc. C'était le thème sur la mélodie de « Debout, Sainte-Cohorte ». Hein. Et par conséquent, le temps d'Israël était arrivé pour Zev Kaufman, le temps où Dieu rassemblait son peuple de l'exil des nations, mais aussi de l'exil spirituel. Et là, donc, c'était la prophétie d'Ézéchiel, le Saint-Esprit qui allait souffler sur Israël. Et par conséquent, un juif croyant, ça veut dire qu'il croit en Jésus, ne pouvait plus rester dans la diaspora. Il fallait qu'il vienne s'installer en Israël, c'était sa vision, et c'est ce qu'il avait fait. Parce que la volonté de Dieu, c'était que les ossements desséchés d'Israël se rassemblent sur la terre ancestrale. Et en Israël, s'unir à une église des nations, à une mission, cesse d'être baptiste, pentecôtiste, méthodiste, luthérien, presbytérien, tout ce que vous voudrez. Parce que pour un juif, ça ne veut rien dire du tout, mais rien. Mais qu'il reconstruise une église nationale, l'église des apôtres. Voilà, c'était sa vision. Alors ça, évidemment, c'était imbuvable, inacceptable pour les missionnaires. Alors aujourd'hui, même ceux qui... Vous avez des églises messianiques à Paris, vous en avez à New York, on va voir ça la prochaine fois, justement. Mais Zev Kaufman s'arrachait les cheveux quand il disait mais une église messianique, c'est une église qui est en Israël. Il ne peut pas y avoir d'église messianique à Paris, il ne peut pas y en avoir à New York. C'est une contradiction dans les termes. Une église messianique, ça ne peut y avoir qu'en Israël. Bon. Alors, c'est pareil, ça c'était évidemment, beaucoup de gens disaient, bah, comment, enfin, en Israël, il faut souffrir, là c'est la guerre, c'est si, oui, bien sûr. Bah. Donc pendant jusqu'en 1956, Zev Kaufman a fait ses réunions donc, à l'IMCA, comme je disais tout à l'heure, jusqu'au moment où on a appris qu'il prêchait l'évangile là où il travaillait. Il a été convoqué au ministère de la Santé, qui était tenu par les religieux, et où on lui a dit que ou il cessait de prêcher l'évangile, ou bien il était mis dehors. Alors évidemment, il a quitté. Il s'est trouvé sans ressources. Et c'est là que son ami, le commandant Kosek, qui était le seul à le soutenir, a créé la petite revue Shalom, fournir donc un soutien financier à l'Assemblée messianique, puisque M. Kaufman ne pouvait plus travailler. Ce qu'il a beaucoup regretté, il aurait voulu pouvoir continuer à travailler de ses mains comme l'apôtre Paul tout le temps, mais le fait qu'il prêchait l'Évangile faisait que c'était une chose qui était absolument impossible. Ça c'était un premier point. Dans le même temps, Zev Kaufman avait une autre pensée. Il voulait se faire reconnaître, ça a toujours été son but, faire reconnaître l'évangile qu'il prêchait comme quelque chose qui n'était pas étranger au peuple. Ce qui est le fait, si vous voulez, du christianisme pour un juif. Le christianisme, c'est une réalité étrangère. Et lui voulait montrer que c'était quelque chose qui appartenait au peuple. Il a donc demandé au ministère des religions à être reconnu comme association cultuelle israélite, c'est-à-dire d'avoir le même statut qu'une synagogue. Vous imaginez que ça a été le parcours du combattant. Et bon, il avait un voisin à rue des Prophètes qui était un juriste. Il avait un petit garçon qui avait l'âge de Florence à cette époque-là, et sa petite fille et ce petit garçon jouaient souvent ensemble, donc les deux familles s'étaient liées, ils étaient presque les uns sur les autres. Et cet homme était un juriste de haut niveau. Et un jour, donc, Joseph Kaufmann lui a expliqué ses problèmes, il dit « mais j'arrive pas », etc. Et cet homme, sans être croyant, était très favorable à ce qu'il vivait, à ce qu'il prêchait. Il dit « écoutez, monsieur Kaufmann, ne vous inquiétez pas, je vais prendre la chose en main, et moi, je vais vous faire avoir ce statut d'église, d'association culturelle israélite ». Cet homme s'est débattu, a fait des pieds et des mains, mais malgré le fait qu'il avait le bras long, ça n'a finalement pas abouti. Et après des années et des années de démarches, il a fini par recevoir il est venu me voir, je me suis comme ça, je suis désolé, regardez, voilà ce que j'ai reçu du ministère des religions, c'est une fin de non-recevoir. C'était un vendredi matin, donc veille de Shabbat. M. Kaufmann, en vue de cette lettre, est entré dans une colère noire. Il a pris, c'était l'hiver, il pleuvait à plein seau, faisait froid. Il a pris son chapeau, son manteau, et est parti droit au ministère des religions. Et il est entré directement dans le service en question. Alors, il arrive là, il était très, très impressionnant. Et la secrétaire, « Monsieur, on ferme. Je veux voir monsieur Intel. Vous avez envie ?»« Non, j'ai pas rendez-vous, mais je verrai monsieur Intel. » Et là, la secrétaire l'a pris pour quelqu'un d'important, une personnalité, pour rentrer comme ça sans rendez-vous, il fallait vraiment que ce ne soit pas le premier venu, quoi. Elle l'a laissé passer. Si bien que, entrez là, je vais signaler, qui dois-je annoncer ? Non, ne vous inquiétez pas, je veux le voir, dites-lui qu'un monsieur veut le voir. Alors, il dit, c'est vraiment quelqu'un d'important pour refuser, surtout qu'il n'avait pas l'air à prendre avec des pincettes, il dit, ça va chauffer. Alors, donc, le responsable sort, ça se dit, monsieur, il y a un monsieur qui vous attend. Monsieur, comment ? Je ne sais pas, un monsieur qui est là. Il va. Avec dit, monsieur Intel, oui, je voudrais vous voir. Et il s'installe d'autorité dans son bureau. Alors, le gars lui dit, qui était le haut fonctionnaire, lui dit, mais monsieur, qui êtes-vous, monsieur Kaufmann ? Voilà, j'ai reçu ça ce matin de vos services. Je voulais vous demander des explications parce que vous n'avez aucune raison de me refuser. Il dit, moi, je vous ai envoyé ça, mais je ne vous ai pas envoyé ça. Il dit, mais c'est bien votre signature, là. C'est bien vos services. Oui, c'est moi. Mais oui, mais je n'ai pas vu ce truc-là. Ça a été envoyé dans mon dos, ça. Il dit, j'appelle mon premier secrétaire. Il appelle son premier secrétaire. C'est un gars avec les payottes. C'est vous qui avez envoyé ça? Le secrétaire reconnaît M. Kaufmann, tout embêté. Ben oui, c'est-à-dire que je pensais que vous seriez d'accord avec ça. Mais vous avez pris ça sous votre bonnet, monsieur? Oui, je pensais que. Bon, on s'expliquera. Prenez la porte. Maintenant, M. Kaufmann, expliquez-moi. Et veille de Shabbat, alors que tout le monde était parti, pendant 2 heures d'horloge, M. Kaufmann lui a rendu témoignage, lui a expliqué tout son cheminement depuis là. Et comment il était revenu avec le peuple, c'était quelque chose du peuple, etc., etc. Il lui a expliqué toute sa vision. Le gars lui a dit, écoutez, M. Kaufmann, dans les 8 jours, vous aurez la réponse, je vous garantis. Effectivement, dans les 8 jours, ils étaient reconnus comme assemblée culturelle, association culturelle israélite, même rang que les synagogues, l'Assemblée messianique de Jérusalem. Ça, quand je disais ça à Doudou il y a des années de ça, il ne voulait pas le croire. Il disait, c'est pas possible. Je lui dis, si, c'est comme ça. Ça, c'était un des grands, grands miracles de Dieu. Alors, l'Assemblée a été donc acceptée de cette manière-là. Bon, je vais m'arrêter parce que l'heure est terminée aussi. C'est pas... Et donc, c'était un tournant. Il y a eu un autre tournant très intéressant à cette période-là aussi. C'est que rue Gershon Agron, au plein centre de la nouvelle ville de Jérusalem, puisque Jérusalem était coupée en deux à cette époque-là, la vieille ville était jordanienne, à côté du grand rabbinat qui s'était construit entre-temps, il y avait une mission américaine des Assemblées de Dieu qui avait ses locaux-là. C'était une mission américaine, et c'était des locaux qui avaient été construits par une dame, une pentecôtiste américaine, qui avait eu cette vision. Elle était assez fortunée, et le Seigneur lui avait demandé de donner une partie de sa fortune pour créer donc un complexe à Jérusalem pour y prêcher l'Évangile. Elle-même, je crois, était venue finir ses jours à Jérusalem, si ma mémoire est bonne. C'était avant la guerre de 48, bien sûr. Donc, en 48... Alors, avant 48, cette mission fonctionnait à la fois avec des Juifs et des Arabes. Et en 48, les missionnaires avaient, au moment de la guerre avait éclaté, ils étaient partis en Amérique. Puis, à la guerre terminée, ils n'étaient pas revenus. Si bien que cette mission était fermée. Et comme M. Crossman était proche du mouvement de Pentecôte, sans être pentecôtiste lui-même, puisqu'il était, il voulait pas être affilié à aucune... Ce qui a fait qu'il a eu des gros problèmes avec l'Assemblée de Dieu française, d'ailleurs, qui voulait qu'il, ce qu'il a jamais voulu. On lui a dit, bah, écoutez, les Assemblées de Dieu aux États-Unis. Il était allé aux États-Unis parce qu'une de ses filles, donc sa fille aînée, avait voulu participer à une école biblique pentecôtiste aux États-Unis. Il avait voulu faire des études dans une école biblique. Il avait donc eu l'occasion d'aller au quartier général des Assemblées de Dieu à Springfield. Et à Springfield, on lui avait dit, tiens, M. Crossman, vous êtes prêcheur à Jérusalem, vous êtes proche de nous. Écoutez, on a des locaux, justement, là-bas, rue Gershon à Gron, dont on n'a que faire. On n'a pas l'intention d'envoyer des missionnaires en Israël. Mais puisque vous êtes là, si ça vous intéresse, prenez-les. On ne vous demandera pas de loyer. On vous demandera simplement de les entretenir. Et puis, voilà, ils sont à votre disposition. Et c'est ainsi que, donc, au moment où l'Assemblée commençait à grandir, ils ont eu à leur disposition cet extraordinaire complexe en plein centre-ville, en face du Grand Rabbinat, qui comprenait une magnifique chapelle, lieu de culte, très fonctionnel, un immense immeuble qui comprenait de très nombreuses chambres, qui leur a permis d'accueillir des groupes entiers, et puis un magasin biblique qu'ils ont remis en fonction avec des bibles qui venaient de la Société biblique de Londres. Et donc l'année 56 a été, qui était en même temps l'année de la guerre de Suez, n'est-ce pas ? M. Crossman était en France pour une tournée. Quand il a appris que la guerre avait éclaté, il a pris le premier avion pour rentrer en Israël. C'était à Villa Coublay que l'avion a décollé. C'était un avion louche qui faisait certainement un trafic d'armes plus ou moins clandestin. Qui voyageait de nuit, était le seul passager. Il avait réussi à avoir un passage. Il a dormi tout du long. L'avion était secoué, c'est pas bon. Et puis, il est arrivé à Lod. Il y avait des avions qui brûlaient sur la piste, etc. Bon. Et l'année 56, ça a été donc ce grand tournant où il y a eu à la fois, donc, la perte de son travail, la reconnaissance par le ministère des Religions de l'Assemblée messianique comme une synagogue, et puis l'obtention de ces nouveaux locaux qui ont été donnés par les Assemblées de Dieu. Donc ça a été une nouvelle étape pour l'œuvre, nouvelle étape qu'on verra la prochaine fois. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?